Bonsoir, bonsoir, on est mercredi. Il est 18h30, c'est l'heure de Combo Jazz, votre émission préférée, Bon, enfin, je dis toujours la même chose, hein, à force, hein. Enfin, ceux qui nous écoutent souvent, vont s'en apercevoir, les autres, non, bien sûr, hein. Et tant mieux, hein. Et vive les nouveaux, et vive les anciens aussi, allez. Ce soir, on est deux, hein. Il y a, en face de moi, Yannick.
Bonsoir tout le monde.
Et puis moi-même, Christian, on va essayer de vous faire passer une heure et demie plutôt agréable et très jazzistique. Très jazz, allez, jazzistique, ça fait pas...
On va même réussir.
Tu crois qu'on va réussir?
Ouais.
Il faut pas être trop orgueilleux non plus, allez.
Ah, il faut pas être orgueilleux, mais il faut croire en produit aussi.
En tout cas, on va bien s'amuser, ça c'est sûr. Et on va commencer l'émission avec un des bons orchestres du sud de la Floride. Pardon, je me souvenais plus, moi. Le très justement appelé South Florida Jazz Orchestra. Et ben voilà, voilà, c'était le sens. Le sens Florida Jazz Orchestra, j'ai du mal avec lui aujourd'hui. Hein. J'espère que j'aurai moins de mal avec le reste. Hein. C'était extrait de leur album sorti il y a 2 ans, The Music of Gary Lindsay, Are We Still Dreaming? Et le titre s'appelait Oumg, U-M-M-G. Voilà, voilà. C'est pas rrr, hein, c'est pas rrr avec 4 R, c'est U-M-M-G, Oumg. On t'écoute, Yannick.
Alors, la dernière fois que je suis venu, il y a un mois, parce que j'ai pas pu venir il y a 15 jours, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de McCoy Tyner, qui nous a quittés au mois de mars. Donc, j'avais présenté déjà un premier truc, là, avec un album de Coltrane en live. On va continuer sur cette lancée, en fait. Donc,
McCoy... Ça nous va bien, hein, tu sais.
Ouais, moi aussi. Donc, McCoy a été initié à la musique et au piano par sa mère. Il a découvert très tôt le jazz, il a étudié à la West Philadelphia Music School et il a rencontré, toujours à Philadelphie bien sûr, des pianistes qui sont assez connus, Richie et Bud Powell.
Bud Powell, waouh.
Desquels il a reçu pas mal de conseils. Et puis toujours à Philadelphie, il a rencontré le saxophoniste John Coltrane et il intègre donc son quartet en 1960. Il y rejoint Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Et là, moi, je dis Elvin Jones, waouh, je suis fan.
Moi aussi, bien sûr.
Il enregistre en 60 avec cet ensemble l'album My Favorite Things, qui est vraiment un des disques incontournables du jazz.
Que j'ai dans mon sac depuis
bouh,
3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, encore si on a un trou. Mais c'est tellement long. Les titres sont tellement longs.
Ouais. Et donc, il va poursuivre la collaboration sur d'autres albums avec Coltrane, et aussi comme sideman pour le label Blue Note, en accompagnant des artistes tels que Freddie Hubbard, Lee Morgan, Stanley Turrentine ou Wayne Shorter, avant de se lancer dans une carrière solo bien plus tard. Donc, on va écouter 2 morceaux du quartet de Coltrane. L'album s'appelle Coltrane. Il a été enregistré en 61, donc juste après My Favorite Things. On va écouter Soul Haze et The Inchworm. voilà, on a écouté l'album qui s'appelle Coltrane, très simplement, du John Coltrane Quartet, avec donc le pianiste Mike Oldtimer. La semaine prochaine, parce que dans 15 jours, il n'y aura pas l'émission, mais dans un mois.
On est en vacances.
On est un petit peu en vacances, ouais.
Je pense qu'on prendra le 9 septembre. C'est bien parce que on saute une émission et on a un mois de vacances.
Et ça fait un mois de vacances. Magnifique.
Mais ça vous fait un mois de vacances à vous aussi, chers auditeurs. Hein? Non, vous allez nous regretter, j'en suis sûr.
Ouais, mais c'est pas pareil parce que si les auditeurs ils ratent une émission, ils peuvent l'écouter.
Ouais, ils ont le replay, ouais.
Voilà.
Et nous, on n'a pas le replay des auditeurs. C'est dommage.
On a toujours une page Facebook, hein, qui existe au nom de l'émission Combo Jazz. Si vous avez envie de venir vous y inscrire et de nous donner votre ressenti, vous êtes les bienvenus.
Ah oui, au contraire, même ça nous ferait drôlement plaisir. On n'écoutera pas ce que vous dites, hein, parce que faut pas exagérer.
Non,
hein.
Et puis on supprimera les commentaires.
Absolument.
Obligeants, parce que quand même.
Oui, là on n'est pas, hein, on est vrai démagogue. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est une émission de jazz, diable. Bon, on va écouter des sorciers maintenant. The Sorcerers. C'est un groupe formé par le souffleur et tapeur, Pete Williams, le bassiste-guitariste Neil Hines et le seulement batteur, hélas, hein, Just Hendrix. Ils ont creusé le filon de l'éthio-jazz et ils se sont perdus dans la jungle des pays avoisinants. Le titre d'album, avoisinant l'Éthiopie, bien sûr. Le titre de l'album, In Search of the Lost City of the Monkey God, à la recherche de la cité perdue du dieu singe. Waouh, c'est joli, on dirait du... Comment il s'appelle déjà, ce héros-là, à la recherche de l'arche. Et ben voilà.
Indiana Jones.
On dirait vraiment l'Indiana Jones. ou même un jeu vidéo, hein. Le titre de l'album donc vient d'un article du National Geographic qui avait impressionné le bassiste. C'est à eux maintenant de nous impressionner. Un vrai voyage vers une cité perdue, des dieux singes et des sorciers pour guide. Who is the hunter? Who is the prey? Beneath the city of the monkey god and crossing the rope bridge. Voilà, style sorcier. In search of the lost city of the monkey god. À la recherche de la cité perdue du dieu singe. Que ça s'appelle l'album. Bon, alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août 2020. Hein, et que c'est le 225e jour de l'année. Alors, je le rappelle parce qu'il y a des gens qui l'oublient. Hein, il y a des gens qui sont malades. Alors, on ne sait plus quelle journée. Il y en a qui se sont bourrés hier. Et puis, aujourd'hui, ils ont du mal. Et puis, il y en a d'autres qui s'en foutent. Et ben voilà, ça, ils le savent. Quelle journée. Nous fêtons les Jeannes, les Clarisse, les Carl et les Carlines. Les Carlines. Je connais qu'une Carline, c'est la librairie de Fort Calquier. Mais bon, hein, voilà. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les librairies, mais non, à tous les gens qui s'appellent Jeanne, et il y en a beaucoup. Clarisse, Carl, Carline, et puis je souhaite une bonne fête aux autres aussi, ça leur apprendra. Aujourd'hui, accessoirement, c'est la journée internationale de la jeunesse et la journée internationale des éléphants. Enfin, bon, apparemment, il n'y a pas de rapport. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu, mais bon, je vous laisse juger. Hein. Yannick.
Oui, alors, je vais pas parler d'éléphants.
Oh, tu vas parler de jeunes, alors.
Ouais, je vais parler de Jazz Passengers. Alors, les Jazz Passengers, c'est un groupe qui existe depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant, de la scène dite downtown new-yorkaise.
Downtown. C'est le centre-ville downtown, hein, je tiens à le préciser.
Et un groupe qui continue d'incarner tout ce que le jazz a d'inventif et de corrosif.
Les deux en même temps.
Ouais, les deux en même temps. Et ce n'est pas complètement un hasard, d'ailleurs, s'ils ont choisi leur nom, puisque c'est un clin d'œil à Art Blakey. Et c'est Jazz Messengers. Donc, ils ont toute une histoire qu'il s'agit de revisiter et éventuellement d'y apporter quelques notes discordantes. Donc, créé en 87 par le saxophoniste Roy Nathanson et le tromboniste Curtis Folkes, le groupe a choisi plutôt le parti d'en sourire en injectant une bonne dose d'autodérision dans leur post-bop pour redonner au jazz contemporain toute son allégresse et son effronterie.
Waouh, j'aime bien les Français.
Je savais, mais tu verras, ça va te plaire, Christian. Donc, l'album s'appelle Still Life with Trouble, c'est sorti en 2017, c'est Angel Records. Et on va écouter le premier morceau qui s'appelle Paris, et le second morceau s'appellera Trouble. Et voilà, c'était les Jazz Passengers. L'album s'appelle Still Life with Trouble et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu à vous aussi.
Bah, en tout cas, moi, ça m'a plu. Avant l'émission, tu m'as dit, ah, je crois que tu vas vachement le kiffer, cet album-là. Et effectivement, je l'ai vachement kiffé, cet album-là. Ah ouais, complètement changé de genre là, j'allais dire c'est du pur plaisir qu'on va écouter maintenant, c'est Maceo Parker, c'est un saxophoniste de légende, c'est le saxophoniste attitré du James Brown de la haute époque. Ensuite, il a fait son chemin avec le Mothership Connection, Parliament Funkadelic ou Prince, avec qui il était vachement copain. Et même comme leader avec ses amis. Bah oui, hein. Avec qui est-on mieux qu'avec ses amis? Récemment, le célèbre bassiste funk Bootsy Collins a créé une sous-marque du label Mascotte qui s'appelle The Funk Garage, qui regroupera des albums de reprises funk, bien entendu. Maceo Parker inaugure donc ce garage funk avec Soul Food, Cooking with Maceo. Un album mirifique, sans temps mort, avec des reprises de Dr. John, des Meters, d'Alain Toussaint, Aretha Franklin, Prince, ou du héros de Maceo, le saxophoniste de Red Charles, David Fathead ou Newman. C'est un putain de musicien lui aussi. C'est une musique d'été qui vous entraîne sur un tempo irrésistible. J'aime bien les phrases comme ça. J'aime bien placer une comme ça de temps en temps. Et j'ajouterai que la façon de jouer de Maceo sur cet album m'a fait irrésistiblement penser à notre ami Michel Billiez, Don Billiez. Voilà. Qu'on salue si Michel, si tu nous écoutes, hein. Pour éviter toute hésitation dans le choix des morceaux, j'ai choisi les deux titres qui ouvrent la cuisine de Maceo, une composition à lui et celle des Meters. Cross the Track et le jouissif et très repris Just Kiss My Baby. Yow!
just kiss my baby. Money don't mean a thing to me now. Come just kiss my baby. Feels so good. Why's that, baby? 'Cause I just kissed my baby.
Et ben voilà, voilà. Hein, je suis le roi parce que je viens d'embrasser ma moitié. Ah waouh, c'est bien, non? Just kiss my baby. Un truc des Meters, c'était Maceo Parker. J'espère que vous en avez joué autant que nous l'avons fait, nous, en tout cas. Check deux, trois trucs là. Oui, ah oui, il y a les anniversaires. Ils sont pas sur cette page là, Christian. Ah là là, tu es mauvais. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Enfin, ça c'eût été l'anniversaire du chanteur et compositeur, bien entendu, Percy Mayfield, qui était né en 1920, du guitariste Pat Metheny, un petit jeune, né en 54, par rapport à Percy Mayfield, bien sûr, de la violoniste Karen Briggs, qui est née en 63, du contrebassiste Chris Jennings, qui c'est pas un mauvais, lui, hein, né en 78, et de la chanteuse Dana Loren, née en 88. Dana Loren, on l'a entendu il y a pas si longtemps que ça, dans cette émission. Bon, bah voilà, bon anniversaire à tous ces gens-là, bon anniversaire aux autres, et puis voilà, et puis bon anniversaire à toi aussi, Yannick. Je sais pas quand c'est ton anniversaire, mais hein, comment, tu veux pas me le dire?
Non, encore un petit peu de temps, je te le dirai en temps voulu.
Voilà. Allez, deux, trois nouvelles. Artemis, c'est le nom d'un nouveau super groupe de musiciennes qui sont réunis ensemble, hein. Enfin, ils sont réunis tout court, hein. Cécile McLaurin-Salvant, Ronnie Roses, Annette Cohen, Melissa Dana, Ingrid Jensen, Noriko Ueda et Alison Miller. Ah, je l'aime beaucoup, elle. Ce sont des Grecs déesses, à cause d'Artémis, hein, que je dis ça. Voilà, déesses grecques. Bon. Début septembre, leur premier album devrait sortir. Et là, je suis censé crier vive les femmes! Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Un film racontant l'histoire du Strange Fruit de Billie Holiday sortira bientôt aux États-Unis. Le réalisateur en est Lee Daniels. Le film s'appellera The United States contre Billie Holiday. C'est Tandra Day, une jeune chanteuse, compositeuse, qui jouera Billie. Elle avait repris Strange Fruit il y a 3 ans pour attirer l'attention sur Equal Justice, une association qui vise à mettre fin aux incarcérations de masse. Bon, je la connais pas forcément, Tandra Day. J'irais même jusqu'à dire que bon, voilà, hein. Elle est plutôt dans le, comment dire, recent blues aujourd'hui. Mais ben voilà, si elle milite et qu'on l'a choisie pour incarner la déesse, parce que Billie Holiday c'était une déesse, et ben c'est peut-être qu'elle le mérite. Ben espérons que ça sortira en France assez rapidement.
Et ben on va attendre ça avec impatience.
Ben oui, ou même avec toi. Moi je veux bien attendre avec toi. On t'écoute, Yannick.
Oui, alors Yvan avait déjà passé ici pas mal de morceaux de jazz gitan, de jazz manouche ces derniers mois, et il avait passé des choses récentes. Donc je vais passer des choses moins récentes. Voilà.
Des vieux trucs, tu veux dire?
On va revenir un petit peu sur des bases de ce qui se faisait au tout début. Donc le jazz manouche, pour juste un petit rappel comme ça, c'est un style de jazz qui témoigne des apports stylistiques des musiques gitanes, manouches, d'Europe centrale, le klezmer, mais aussi du musette et de la chanson française. Donc tout ça, ça a été mélangé avec le jazz qui est arrivé en Europe au début des années 30. Et ça se caractérise par une session rythmique assurée par deux guitaristes, en général, une contrebasse, un violon. Pas de percussion, en général, pas de cuivre.
Oh, hein,
le jazz manouche, voilà, on dit que c'est un jazz sans tambour ni trompette.
C'est très drôle. Bah, les tambours, c'est gros, hein, c'est pas facile à emmener. Hein,
non, c'est pas facile.
Ouais. À l'harmonica, ça arrive, ça,
ouais,
quelquefois.
C'est sympa l'harmonie aussi. Ouais. Les initiateurs de ce style, donc d'abord caractérisés par des instruments à cordes, sont les très connus Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, auxquels sont venus s'ajouter au fil des années donc des accordéonistes, des bassistes et des clarinettistes de tout poil.
Et puis il y a toute la famille de Grappelli. Hein.
Ouais.
Voilà, du premier nommé.
De Django.
De Django Reinhardt.
Ouais.
Birgit Lagrène et ses grands frères, ses grandes sœurs et ses enfants.
Tout à fait. Donc, en introduisant le jazz dans la musique manouche, le guitariste de Django Reinhardt a réussi à créer un nouveau folklore. Depuis 1934, il est considéré comme l'inventeur du jazz manouche avec le violoniste Stéphane Grappelli, qui sont tous deux leaders du quintet du Hot Club de France. Mais d'autres musiciens ont accompagné cette naissance, comme l'accordéoniste Gus Wieser, membre lui aussi du Hot Club de France, et Matt Tello Ferré, l'inventeur de la valse bebop et toute la dynastie Ferré qui a suivi.
Ah, les Ferré, ouais, là. Ouais. Léo, par exemple. Ah non, non, pardon, c'est autre chose.
Donc, j'ai choisi trois morceaux, en fait, qui sont issus d'un CD qui s'appelle Jazz à la Gitane, qui est une petite compilation, en fait, hein, qui est sortie en 2003. Donc, il y a un premier morceau qui s'appelle Hungarian, qui est un morceau traditionnel arrangé par Django, qui est joué par André Ekian et son orchestre. Orchestre dans lequel se trouve tout à fait par hasard Django Reinhardt. Le second morceau s'appelle When the Day is Done, qui lui est joué par le quintet du Hot Club de France avec Grappelli, avec Django Reinhardt. Et le troisième morceau s'appelle Black Gypsy et il est joué par l'orchestre d'Eddie Souf avec Eddie Souf et David Martin. Voilà, voilà, c'est parti! Thank you. Donc on a écouté trois morceaux issus de cet album qui s'appelle Jazz à la Gitane. Alors juste comme ça, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ces morceaux ont été enregistrés en 41 pour le premier, en 38 pour le second et en 1937 pour le dernier. Donc on est vraiment sur le début du jazz manouche. On est
sur la musique d'avant-guerre en tout cas. Hein.
La musique d'avant-guerre, tout à fait.
Mais avant même que, si je ne me trompe, avant même que... qui partent aux États-Unis.
Django, ouais.
Django, ouais.
Ah ouais, tout à fait. C'est ça.
Et ben voilà. Allez, on va écouter un autre génie de la musique en général et du jazz en particulier, monsieur Gil Evans. Tiens, bah, allez, pendant que j'y suis, tiens, je rappelle qu'il faut absolument aller, faut aller dans les médiathèques. Parce que dans les médiathèques, il y a des bouquins, il y a des livres, il y a des disques, il y a un tas de choses qu'on peut découvrir, j'allais dire gratuitement, ouais, ou presque, et ça enrichit vraiment beaucoup. Et entre autres, j'ai trouvé cet album, donc, qui s'appelle, dans une médiathèque, qui s'appelle The Individualism of Gil Evans. On peut pas tout avoir, hein. Celui-là, je l'avais pas. Gil Evans, donc, c'est un des monuments du jazz, c'est un arrangeur, un directeur d'orchestre, un compositeur. Il a collaboré avec un certain nombre de musiciens. Mais surtout, j'allais dire, ce qui nous intéresse ici, avec le jeune Miles Davis. Et il l'a beaucoup influencé. En 64, il entre en studio avec ses musiciens fétiches, dont Wayne Shorter, Kenny Burrell ou Elvin Jones, pour enregistrer quelques titres de sa composition, co-composé avec Miles, ou même un truc de Kurt Weill et un autre de Willie Dixon. Eh ouais, du théâtre allemand et du blues. Eh ben, ma foi, c'est hétéroclite, mais c'est si beau. On écoute la composition qui ouvre le CD, c'est signé Gil et Miles, ça s'appelle Time of the Barracudas. Voilà, voilà, c'était Gil Evans, enfin son orchestre, puisque lui, il ne fait que composer et arranger, enfin il ne fait que, hein, voilà, voilà. Alors, à la demande générale de mon collègue, je dirais que le guitariste c'était Kenny Burrell.
Voilà. Et Wayne Shorter au sax.
Et Wayne Shorter, entre autres au saxophone. C'est, alors, on le disait en antenne, là, tout à l'heure, que c'est de la musique qui parle à l'esprit plutôt qu'au cœur. Hein. C'est de la musique assez froide, très, très intellectuelle. Et voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire à propos de ça. Maintenant, on arrive à la fin de l'émission. On va écouter le dernier morceau de cette émission. Et ce dernier morceau, ce sera de la guitare encore.
Voilà, je vais essayer de parler un petit peu de temps en temps de guitaristes de jazz et de présenter un petit peu. Parce que juste un petit mot comme ça, le développement de la guitare dans le jazz, elle est marquée par des avancées technologiques et par quelques précurseurs. Pour les avancées techno, on a surtout l'amplification de l'instrument qui va révolutionner la pratique et qui permet aux guitaristes de jouer à la manière des saxophonistes, donc en solo en fait, et non plus juste en soutien rythmique de l'orchestre et de la cellule rythmique qui est déjà par la batterie et la contrebasse. Mais dans les années 20 déjà, hein, des guitaristes comme Lonnie Johnson et Eddie Lang ont commencé à jouer du jazz, et non plus simplement en accord mais en interprétant des solos. Mais ça va être quand même plus facile quand il va y avoir des amplis. Et la période d'amplification, on va dire, elle est surtout marquée par quelqu'un, c'est Charlie Christian, qui était un guitariste qui est mort très jeune, parce qu'il avait 29 ans je crois quand il est mort. Et puis Django Reinhardt. On y revient, mais
ben oui.
Mais voilà. Et il y en a d'autres, hein. On a des gens comme George Van Epps, Freddie Green, très très connu bien sûr aussi, et puis Teddy Bunny. On va écouter un morceau qui s'appelle Salute to Charlie Christian. C'est joué par Barney Kessel, un autre grand guitariste de jazz.
C'est vraiment le dernier morceau de l'émission. Et puis voilà, on fait plein de bises. Portez-vous bien.
On vous souhaite deux bonnes vacances si vous y êtes. Et du courage si vous travaillez.
Ouais, hein. Ouais, voilà, c'est une bonne idée. Ouais, bien du courage.
Voilà, on se retrouve dans un mois.
Ben voilà, écoutez plein de musique, de la bonne musique, de la musique que vous aimez, n'importe laquelle. Et profitez-en.